une nouvelle édition de l'économie en question avec trois invités présents dans ce studio pour débattre d'une actualité qui ne nous a guère quitté au cours de l'année 2015 et qui semble plus aiguë encore en ce début d'année 2016. La crise migratoire en Europe, l'afflux des réfugiés qui ne se dément pas, ni en parallèle les interrogations et les inquiétudes croissantes que le phénomène suscite dans tous les pays. La pression des opinions publiques s'est accentuée et les politiques émettent des doutes, y compris dans les pays les plus favorables, même en Allemagne donc, où les récents événements de Cologne ont constitué un choc et peut-être inspiré un nouveau tournant, si l'on en juge par les mesures qui ont été prises tout récemment en Allemagne, mais aussi au Danemark, mais aussi en Suisse, en Autriche également, à la frontière allemande, l'Allemagne qui a accueilli 1,1 million de réfugiés en 2015, plusieurs milliers qui se présentent encore chaque jour à ses frontières. Novembre 2015, c'est aussi, et on l'a tous remarqué, nous en avions parlé ici même pour la première fois, une évaluation par la Commission européenne dans ses prévisions des effets de l'immigration sur l'économie et un verdict pour Bruxelles. L'arrivée prévue de 3 millions de migrants d'ici 2017 représente, je cite, un stimulant pour l'économie. Plus largement, je dois préciser, nous l'avons là aussi souvent souligné, que les économies sont nombreuses, voire unanimes à estimer que l'immigration actuelle n'est pas un danger pour l'économie européenne, plutôt une chance. Même en période de faible croissance et de chômage élevé, comme c'est le cas par exemple en France. C'est bien sûr l'angle qui nous intéresse ici ce matin, l'Europe. Au défi des migrations, quelle réponse économique ? Et nous sommes en compagnie pour cela de Jean-Christophe Dumont, chef de la division des migrations internationales à l'Organisation de coopération de développement économique, qui fait d'ailleurs paraître cette semaine, sorti jeudi, un rapport sur les réfugiés, de Helmut Mood, professeur d'économie à Paris Dauphine, et d'Olivier Pastret, professeur d'économie à Paris 8. Bienvenue à tous les trois et bienvenue à Marie Belland des Échos, notre partenaire pour sa chronique sociale en fin d'émission. C'est bien l'économie en question. Bienvenue à tous et nous sommes ensemble jusqu'à 12h30. La question au fond que je souhaitais vous poser, une fois avoir introduit, que nous avons introduit de cette manière notre sujet, ce consensus semble-t-il entre les économistes et la Commission européenne qui le confirme après étude, des bienfaits de l'effet de l'immigration sur nos économies. Diriez-vous la même chose, même si le rapport de la Commission date de novembre 2015, la situation est-elle toujours la même après cette année extrêmement critique que l'Europe a connue à ses frontières? Jean-Christophe Dumont, et vous venez de faire paraître un rapport sur les réfugiés, je l'ai dit.
Absolument, bonjour. Je pense qu'effectivement, les résultats des études qui ont été menées, pas simplement ces dernières années, mais depuis de nombreuses années, sur l'impact économique des migrations, ne sont pas remis en question par les développements récents. Simplement, évidemment, ce qu'on a aussi toujours dit, c'est qu'en ce qui concerne les réfugiés en particulier, donc qui composent l'afflux de migrants auxquels fait face l'Europe, la situation est plus complexe. C'est évidemment plus compliqué d'intégrer des réfugiés et de faire qu'ils se transforment évidemment en contributeurs nets à nos économies. Ça nécessite un investissement et c'était l'objet donc de cette réunion qu'on a tenue hier à haut niveau entre l'OCDE et l'UNHCR sur l'intégration des réfugiés.
L'Union pour les Nations Unies pour le Haut Commissariat pour les réfugiés.
Absolument, et ça nécessite donc un investissement en termes de cours de langue, de reconnaissance et de complément de qualification. Et c'est seulement si on réalise cet investissement et qu'on le réalise d'une façon efficace que cet afflux de réfugiés, évidemment, contribuera également à nos économies.
Que vous promettez une contribution efficace pour nos économies. Les mesures qui ont été prises, j'ai rappelé très brièvement, je parle du Danemark d'abord, un projet de loi qui envisage de confisquer les biens des réfugiés dépassant 1 300 euros. Pour participer, disent-ils, au financement de leur séjour, diminuer leurs droits sociaux. L'Allemagne est en train de prendre les mêmes dispositions, mais d'autres États l'avaient déjà fait, la Bavière notamment, je crois le Bade-Württemberg avant, mais là c'est au niveau fédéral, l'Autriche, la Suisse, citer d'autres pays encore. C'est le signe quand même que sur le court terme du moins, on est assez pris en étau, Helmut Mood.
Oui, alors s'agissant des réfugiés, en effet, la différence entre un réfugié qui est parti pour des raisons forcées du fait d'un choc et un émigré économique qui vient parce qu'il a un travail, c'est un problème de coût d'ajustement. Effectivement, lorsque les réfugiés arrivent, ils attendent un certain moment avant d'avoir les possibilités de travailler. Et effectivement, il y a un coût d'ajustement qu'il faut prendre en considération et que les pouvoirs publics peuvent prendre en considération. Donc, en effet, ça se prépare, surtout lorsque c'est, comme pour l'Allemagne, un nombre assez important de près d'un million, en effet. Et donc là, il y a une problématique d'ajustement. Cependant, lorsqu'on regarde un petit peu les caractéristiques de ces réfugiés, on voit apparaître tout de même, parce que précisément, ils sont forcés de partir pour toute une série de raisons, on a une très forte surreprésentation des qualifiés parmi eux. Et donc, par conséquent, on peut penser que si il y avait...
Jean-Christophe Dumont vient de hocher la tête, on va y revenir.
Une possibilité d'ajustement, de coût d'ajustement qui peut être compensé à terme par un gain, disons, assez rapide, mais qui en effet, nécessite un investissement, comme l'a dit très bien Jean-Christophe, même s'il n'est pas tout à fait d'accord sur le fait qu'il soit
qualifié. Pourquoi Jean-Christophe Dumont ?
Sur les qualifications, je pense qu'il faut reconnaître qu'il y a une grande diversité de situations. Les chiffres dont on dispose sont tout à fait limités et montrent, par exemple, dans le cas de la Suède, que 40% des réfugiés syriens ont au moins un diplôme d'éducation secondaire supérieure. En gros, le niveau bas. 15% sont diplômés du supérieur, c'est-à-dire qu'il y a effectivement des médecins, des architectes, mais pas que. Il y a aussi 40% de ces réfugiés syriens qui sont d'un niveau d'éducation primaire ou plus. Et puis pour d'autres groupes, les Afghans par exemple, les Érythréens, le niveau de qualification est beaucoup plus bas. En fait, il y a une grande diversité et c'est aussi un des défis pour les politiques d'intégration, c'est-à-dire qu'il faut adapter l'offre à chaque profil.
Et il n'est pas facile non plus pour les réfugiés même diplômés de faire valoir d'ailleurs leur diplôme, parce que bien souvent ils arrivent extrêmement démunis, ce que vous notez aussi dans votre rapport.
Absolument, sans les papiers même.
Oui. Et sans papiers, Olivier Pastré.
Non mais c'est un débat, hein, c'est bien de l'avoir organisé, c'est un débat totalement surréaliste, je veux dire. Est-ce que l'immigration est un bienfait ? Vous l'avez rappelé, mais il faut le rappeler toutes les 5 secondes pendant ce débat. Oui, c'est un bienfait. Juste 2 chiffres et après 3 sujets de réflexion. Les 2 chiffres, la population en âge de travailler en Europe va diminuer de 7,5 millions de personnes à l'horizon entre 2013 et 2020. Les personnes âgées de plus de 60 ans, c'est-à-dire qui ne travailleront plus et dont il faudra payer les retraites, on va passer de 17,4% à 25% dans une décennie ou deux. Donc on a un besoin absolu qu'on est incapable de générer en Europe de travailleurs. De ce point de vue-là, l'immigration, dont les réfugiés, c'était évidemment un bienfait. Il faut le lire, le répéter, parce que franchement, c'est pas la voix la plus entendue aujourd'hui. Encore une fois, le problème économique est un problème, le problème politique est un autre problème. Je dis pas que c'est facile, mais il faudrait, dans les 20 ans qui viennent, il faudra absorber une vingtaine de millions d'immigrés, comme l'ont fait les États-Unis. Bon, après, il y a 3 sujets. Il y a 1, les pays producteurs de migrants, 2, les transporteurs de migrants, 3, les consommateurs de migrants. Et c'est vrai que si on cherche des solutions, il faut s'attaquer aux 3 problèmes et qu'il ne faut pas se concentrer juste sur la frontière grecque, qui est un des éléments d'un des problèmes. Voilà.
Pas toujours facile d'ailleurs de démêler le politique de l'économique, même si c'est ce dernier qui nous intéresse dans cette émission.
Au moins pour une fois qu'on écoute l'économique.
Helmut Mood.
En réalité, on a effectivement, les travaux montrent que les effets économiques sont plutôt positifs. Maintenant, ça c'est dit, c'est redit, mais c'est difficile à faire comprendre dans un contexte qui est celui de la confusion sécuritaire. C'est en effet le drame actuel avec toutes ces personnes qui arrivent, etc. C'est assez exploité. Moi, je dirais que vous aviez posé la question de savoir ce qui était nouveau en réalité depuis les dernières années. Moi,
je pense que la donne avait changé. C'était ça la question après cette année 2015.
Pour l'Europe, il me semble qu'il y a deux choses. Un choc qui est finalement une surprise assez positive. Le choc de la crise des subprimes et de la crise de 2008 a provoqué quelque chose de nouveau en Europe, c'est une augmentation de la mobilité du travail, une augmentation des flux d'émigration. Ça, c'était pas du tout attendu. On avait une zone euro qui était réputée avec un très faible mobilité, très faible migration, 10 fois plus faible contre les régions américaines, et évidemment ça pose toute une série de problèmes
intra-européens,
et ça pose toute une série de problèmes d'ajustement. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'en effet, du fait de la crise, on a eu un afflux des migrants en provenance des pays qui étaient devenus des pays d'immigration massive, les pays d'Europe du Sud, l'Irlande, et beaucoup de gens qui étaient venus dans ces pays sont repartis, dans les pays d'Europe centrale orientale en particulier, et on a eu aussi beaucoup d'émigration d'Espagne, du Portugal, de Grèce, vers l'Allemagne. l'Allemagne, qui est un pays qui n'a pas la même structure de taux de chômage ni de taux de croissance. Donc les divergences de taux de chômage
ni
de démographie s'étant accrues, on a cette bonne nouvelle. La deuxième chose, le deuxième choc, si vous voulez, c'est quand même l'afflux de ces réfugiés. Et c'était assez inattendu, car jusque-là, les flux d'immigration en Europe étaient relativement faibles. Et là, en effet, en particulier en Allemagne, car en France, on reste tout de même à des niveaux extrêmement bas. Si on attend 35 000 réfugiés, ce sera le maximum. Et en revanche, on est à des niveaux ici, en Allemagne, proche, vous l'avez dit, d'un million. Et là, les effets démographiques sur l'Allemagne et les effets sur, y compris, une relance économique sur la demande, sur le marché des biens, sont des effets qui peuvent être beaucoup plus sensibles que ceux auxquels on avait à faire face habituellement avec des très faibles flux.
Ce qui est tout à fait impressionnant quand même, c'est parce que l'on parle ici de l'ensemble de l'Union européenne, c'est quand même les différences d'abord de situation économique. Nous sommes sur un 1,1% de croissance. L'Allemagne espère autour de 1,9% avant 2017, et même table assez nettement là-dessus. Et puis je l'ai dit, le nombre de réfugiés n'a rien à voir selon que l'on parle de l'Allemagne ou d'autres pays, à commencer par la France d'ailleurs, qui a proposé sur 2 ans d'accueillir 30 000 réfugiés, qui pour l'instant en a moins de 10 000, je crois. Jean-Christophe Dumont, il faut tenir compte quand même de ces différences entre pays et des
Oui, à la fois, il faut aussi contextualiser et relativiser certains des chiffres qui sont véhiculés régulièrement, notamment ce fameux 1 million de demandes d'asile enregistrées en Allemagne, qui sont en fait pas tout à fait des enregistrements de demandes d'asile, mais des pré-enregistrements. Et donc, on verra le chiffre final, mais certains ont déjà poursuivi leur voyage jusqu'en Suède et donc peut-être ne seront pas enregistrés en Allemagne. Par ailleurs, parmi toutes ces personnes qui ont demandé l'asile en Allemagne, nombre d'entre eux, en fait, étaient originaires du Kosovo ou d'Albanie et sont déjà retournés au Kosovo et en Albanie parce que leur cas a été traité extrêmement rapidement avec un taux de reconnaissance quasiment nul. Donc, ce ne sont pas, même pour l'Allemagne, 300, pas plus de 300 ou peut-être 400 000 personnes qui obtiendront au titre des demandes de cette année le statut de réfugié. Quant à la France, c'est environ 80 000 demandes d'asile pour l'année 2015. Donc, par rapport à la population française, c'est effectivement extrêmement faible. Très en deçà des pays comme la Suède, qui, par exemple, va recevoir 1,5% de sa population en demandeurs d'asile pour cette année. Et évidemment, ça, c'est un chiffre... on peut imaginer toutes les difficultés qu'il peut y avoir derrière à fournir simplement un logement immédiatement, mais également tout le soutien nécessaire pour intégrer les enfants dans l'école, pour fournir les services sanitaires même de première urgence nécessaires aux gens qui ont traversé l'Europe à pied, pour évidemment apporter le soutien pour lequel on plaide, c'est-à-dire en termes de cours de langue, en termes de profilage des compétences et en termes de soutien nécessaire. Ce qu'on dit, c'est que vraiment, sur cette question des réfugiés, on n'a pas le droit d'échouer. Parce que si on échoue, effectivement, non seulement il y aura peut-être un coût économique à entrevoir au lieu d'un bénéfice dont on essaye de parler aujourd'hui, mais surtout, il y aura un coût social énorme. Parce que si on échoue avec ces nombres-là de réfugiés, alors à ce moment-là, on va vers des éléments politiques, et en termes de politique européenne, mais aussi de politique nationale, qui sont effectivement inquiétants.
Et l'une des conditions de réussite, et vous le dites encore dans ce rapport, donc sorti cette semaine, c'est que l'immigration... tout l'enjeu, c'est de réduire en fait le temps nécessaire pour intégrer ces réfugiés au temps de travail, au marché du travail. Ce qui n'est pas vraiment la direction qui est prise, puisqu'au contraire, les restrictions sont en train de se multiplier.
Il y a deux façons de faire ça. La première façon, évidemment, c'est de réduire le temps de traitement des demandes d'asile. Alors c'est possible seulement dans un certain degré, parce que il faut quand même s'assurer que la procédure est faite de façon tout à fait normale et que tous les appels sont possibles. Mais la deuxième façon, c'est de permettre un accès plus rapide au marché du travail. En France, c'est 9 mois pendant l'examen de la demande d'asile. Au Royaume-Uni, c'est 12 mois. En Allemagne, c'est 3 mois. En Suède, c'est 0 mois. Et effectivement, plus rapidement, on peut mettre un pied sur le marché du travail. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va trouver un emploi tout de suite, mais en tout cas, plus rapidement, on peut faire ce lien avec le marché du travail. Plus on va apprendre vite la langue, et plus peut-être on va aussi, à long terme, avoir des résultats favorables.
Olivier Passeret.
Mais c'est pour ça que la situation de la France est doublement catastrophique, parce que après, il y a évidemment des explications aux différences. Vous disiez, il y a des différences dans les migrants et il y a des différences dans l'accueil des migrants par les différents pays. Donc, pour ce qui concerne l'accueil des migrants dans les différents pays, il est clair que l'Allemagne a un taux de natalité absolument cataclysmique et donc Angela Merkel, elle n'est pas gentille. Elle est toujours aussi méchante, entre guillemets, je plaisante, et elle a envie que son pays rebondisse et pour ça, elle a besoin de migrants. Après, ce qui me fera, et de ce point de vue-là...
Et les entreprises la soutiennent sur ce point.
Bien sûr.
On fera peut-être un aparté sur le rôle des entreprises dans cette affaire.
Après, de ce point de vue-là, je trouve que la France a une position complètement cataclysmique. Mais il l'est doublement parce qu'on est, tel qu'on l'entend, dans un discours purement défensif. C'est-à-dire comment on ferme les frontières. Ce qui est aussi un vrai sujet, parce que Frontex, qui est en principe notre garant en matière de frontières européennes, je rappelle qu'on a pendant très longtemps baissé son budget, qu'elle n'a pas les moyens de travailler, donc il y a évidemment des choses à faire dans ce domaine-là, c'est pas le sujet. Simplement, aujourd'hui, il faut se dire qu'il faut investir. Vous l'avez dit tous les deux, je rajoute ma voix, il faut investir en formation, il faut investir en accueil. Et là, on n'a pas entendu un mot du gouvernement. Et je suis pas sûr que si c'était l'autre, on aurait entendu un mot. Je pense que là, on serait sûr qu'on en entendrait pas, mais...
Pas beaucoup des autres, enfin pas de tous les gouvernements, en tout cas, Helmut Moritz, sur ce
point. Deux points. Un sur l'Europe et un sur la France, pour revenir sur la France. Sur l'Europe, on a dit qu'il y avait un très très grand risque, en effet, d'échec. Enfin, que si l'échec venait à s'avérer, ce serait très grave. Ce serait pas seulement grave parce que il y aurait des problèmes de repli nationaliste et d'exploitation ultra outrancière de cette question, mais ce serait grave parce que ça remettrait en cause quelque chose, la bonne surprise dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a enfin un processus d'ajustement qui se met en place en Europe, ce qui était très difficile à avoir, qui s'est mis en place de manière un peu naturelle d'une certaine façon, et on a un risque de remise en cause de Schengen et du principe même de ce qui fait l'Europe aujourd'hui, qui est la libre circulation. Et ça risque d'être le coût à payer d'une mauvaise politique d'insertion des réfugiés. Donc on a deux facteurs différents, mais l'un et l'autre peuvent être liés. Donc c'est la raison pour laquelle les gouvernements doivent s'entendre et doivent en effet investir massivement dans l'accueil de ces réfugiés qui, encore une fois, je le dis, peuvent avoir un gain qui permet de rattraper, de compenser ce coût initial d'investissement. Deuxième chose sur la France, en effet, la France, ça fait plusieurs années qu'on le dit, déjà avant 2012, au moment du débat, on a accepté un déni qui est que nous avons des flux extrêmement faibles. Je rappelle qu'en flux net, quand on a compté les retours, on a toujours que 100 000 migrants qui rentrent dans notre pays et que parmi eux, nous n'avons que 20 000 immigrants de travail et qu'on a à peu près 45 000 d'immigrants en libre circulation qui sont ceux qui sont liés à Schengen et puis le reste c'est de la migration familiale. Donc on est à des seuils extrêmement bas, hein, deux fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Et donc, c'est un problème parce que de l'autre côté, nos besoins de recrutement sur le marché du travail, en dépit d'un taux de chômage de 12%, se font sentir et les entreprises françaises aussi le demandent. Et donc, il y a cette schizophrénie-là qui consiste à dénier une vraie politique rationnelle d'immigration en fonction des besoins et une politique qui est ramenée constamment à des problèmes d'instrumentalisation pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'économie.
Olivier Pastret, puis Jean-Christophe Dumont.
Non, je voulais juste rappeler un chiffre. 300 000 emplois non pourvus en France. Donc il y a 300 000 personnes à employer demain matin.
C'est une autre étude d'ailleurs de l'OCDE hein, sur une période de 2001-2011, ce que j'ai retrouvé Jean-Christophe Dumont, et qui a mesuré que les immigrés représentent toujours, en tout cas jusqu'en 2011, cette étude, 15% des entrées en emploi dans des métiers, des secteurs en croissance, mais qui ne sont pas pris par les nationaux. Mais on le sait bien, cela, hein, 28% dans des métiers en décroissance quand même. Ils sont encore
vraiment,
plus nombreux.
C'est encore plus intéressant.
Ce dont on ne veut pas.
Dans ces métiers en décroissance, il y a tellement de sorties qui sont liées au départ à la retraite. Et évidemment, les jeunes et les entrants sur le marché du travail ne sont pas attirés par ces emplois, puisqu'ils sont en déclin, qu'effectivement, il faut faire appel à la main-d'œuvre immigrée pour les pourvoir. Mais je voudrais juste revenir sur cette question de l'investissement en intégration, notamment pour les réfugiés. Parce qu'il y a certains pays, ceux qui sont les plus confrontés aujourd'hui, qui ont dépensé énormément d'argent, notamment c'est le cas de la Suède, 1% de son PIB, en plus des dépenses auxquelles il procédait habituellement sur l'intégration. Pour l'Allemagne, c'est 6-7 milliards d'euros environ. Ça a d'ailleurs créé un effet de relance.
Sur les mesures d'urgence qui ont été prises ?
Absolument. Et ça a d'ailleurs créé un effet de relance qu'on a estimé à l'OCDE à environ 0,2% du PIB pour l'année 2015 et l'année 2016. Donc, il y a des pays qui ont investi. Évidemment, peut-être que l'urgence est moins forte en France parce que les flux, comme on l'a déjà dit, sont très faibles, mais cela dit, peut-être que on pourrait s'interroger aussi sur des dispositifs qui permettent notamment pour les gens qui demandent l'asile aujourd'hui de pouvoir rentrer dans des dispositifs d'appui, par exemple des cours de langue, auxquels ils n'ont pas le droit tant que leur demande n'est pas traitée. Et quand on est Syrien demandeur d'asile en France aujourd'hui, on sait qu'on va obtenir l'asile, mais on n'a pas de soutien tant qu'on n'a pas le statut. Alors ça, c'est effectivement une question peut-être qui est légitime de se poser.
Et on ne va pas vers ça encore une fois avec les mesures qui sont en train d'être prises de part et d'autre sur d'abord cet argent dont il faut se délester au-delà de 1300 euros hein, pour le Danemark, mais l'Allemagne est en train de prendre des mesures similaires, et aussi pour le regroupement familial qui serait repoussé à 3 ans, ce qui est extrêmement dur, on peut l'imaginer, pour des réfugiés en provenance de Syrie ou d'ailleurs.
Non,
pourquoi non, Olivier Pastret?
D'abord, juste un chiffre, j'aime les chiffres, ça permet de réfléchir quand même. Je rappelle que les États-Unis ont accueilli 40 millions d'immigrés depuis 1965. Nous, à côté, on est totalement ridicule. Donc, je veux dire, un pays très libéral a démontré qu'on pouvait accueillir des immigrés. Alors, je dis pas ça se passe très bien, mais en tout cas, ça se passe. Après, je réagis à regroupement familial. À mon avis, il y a deux sujets, parce que, objectivement, l'immigration, ça pose aussi des problèmes. Un, et je serais peut-être pas d'accord avec mes partenaires, il va falloir un peu arrêter le regroupement familial. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est pas nécessaire, je dis pas que c'est pas utile. Je dis simplement que face à, entre guillemets, un afflux, ou en tout cas une augmentation du rythme de rentrée, il faut probablement, momentanément, ne pas donner la priorité absolue au regroupement familial. Par ailleurs, il y a un autre problème qui se pose en France et auquel les Français sont très sensibles, ce que je peux comprendre.
Des négations énergiques des deux côtés,
allons-y. Qui est celui des travailleurs détachés. Qui est un statut un peu compliqué. Alors, ça représente 150 000 personnes, d'après les chiffres que j'ai regardés. C'est pas des chiffres énormes, mais dans certains secteurs comme le BTP, ça pose des problèmes d'acceptation et d'égalité de la concurrence qu'il faut pas sous-estimer. Donc, là aussi, il faut mettre, non pas les pieds dans le plat, mais mettre les choses au carré.
Regroupement familial, de réaction, là, oui. Je vous ai vu tous les deux.
Sur cette question-là, précisément, enfin, en ce qui concerne les réfugiés, en tout état de cause, le droit à vivre en famille fait partie de la convention, enfin, est inclus dans la convention de Genève. Donc, évidemment, ça, c'est le premier problème que ça pose. Le deuxième problème que ça pose, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, les dernières statistiques, et maintenant on a des statistiques qui sont absolument excellentes, qui sont quotidiennes, sur les bateaux qui traversent entre la Grèce et la Turquie, aujourd'hui, il y a autant de femmes et d'enfants que d'hommes. Et pourquoi c'est le cas? C'est le cas soit parce que, effectivement, les perspectives du regroupement familial s'étant obscurcies, les femmes et les enfants qui étaient restés maintenant prennent les bateaux, soit parce que, directement, les gens partent en famille parce qu'ils savent qu'ils n'auront pas le droit au regroupement familial. Donc, est-ce que le regroupement familial n'est pas aussi une bonne façon de préserver des vies? Et je pense que c'est une question, en tout cas, qu'il faut se poser.
Pour que les auditeurs n'envoient pas des mails à Dominique Rousset en disant que je suis un gros méchant, je ne suis pas contre le regroupement familial. Je dis que la politique d'immigration en France a donné une place importante au regroupement familial au cours des dernières décennies, et que voilà, on est dans une période un peu particulière, il faut en tenir compte.
Non, mais en fait, même là-dessus, il faut le nuancer, parce que le regroupement familial, on est vraiment au strict minimum au niveau de la définition. En France, le regroupement familial, c'est pas comme pour les États-Unis où c'est les relatives, les parents, les enfants mineurs. Ici, on a les époux et les enfants mineurs, donc c'est stable, à moins de dénoncer les conventions internationales, on peut pas tellement toucher à ça, et puis par ailleurs, chez les réfugiés, ce qui fait la caractéristique des réfugiés, c'est qu'ils ont été forcés de partir et qu'ils ont été, comme c'est bien d'être dit, ils l'ont été, et donc ils partent en famille. Mmh. Et puis, troisième point sur les regroupements familiales, les politiques sélectives d'immigration qui marchent bien, quand on regarde du côté du Canada, par exemple, précisément ne font pas la distinction entre l'immigration purement d'individus qualifiés et l'immigration familiale, parce qu'ils savent très très bien que si vous voulez attirer les meilleurs et que vous augmentez la probabilité d'attirer les meilleurs, bah, vous ne devez pas restreindre. Et donc, vous dites, ils vont en Afrique du Nord, en particulier parmi les plus qualifiés, ils vont leur dire, bah, venez au contraire avec votre famille. Et on accueille, on a une politique d'anticipation et d'accueil. C'est toute la différence avec la politique française, et là je rejoindrai Olivier Passeret. Ce qui manque, c'est une politique en direction de l'immigration. Il n'y a pas de politique d'immigration. On le dit depuis plusieurs années. On a des flux d'immigration économique extrêmement faibles et on n'a pas d'immigration, de politique, d'accueil. Et c'est la raison pour laquelle nous nous trouvons dans un débat tout à fait schizophrène, des flux très faibles, exploités en permanence politiquement, et puis de l'autre côté, une réalité économique et sociale qui est tout à fait différente et on tourne le dos à nos besoins et à nos intérêts en étant dans cette stratégie du déni.
Mais il y a une inflexion aussi très, très forte et que l'on peut remarquer depuis quelques mois, c'est que justement ce qu'on appelle les migrants économiques, cette distinction a toujours été un peu trouble. On est en train de faire une distinction très nette entre le réfugié, dont s'occupe le rapport que présente Jean-Christophe Dumont, et ce qu'on appelle le migrant économique, à savoir que par exemple les ressortissants des pays du Maghreb, Maroc, Algérie, Tunisie, ne sont pas, leur demande n'est pas recevable, elle l'est encore moins ces derniers temps parce qu'on privilégie les réfugiés. Ce qui pose une autre dimension économique et notamment de coopération avec ces pays d'Europe du Sud que vous connaissez bien, Olivier Pastrel, Mouhoud.
Bon, ça c'est une question effectivement qui est importante à poser. Et nous, on a publié en décembre une petite note qui pose la question de peut-on mettre la fin au trafic illicite d'êtres humains et notamment à cette question des passeurs qui amènent des gens en très grand risque, avec beaucoup de risques jusqu'en Europe. Je crois qu'il faut voir cette question sous deux angles. D'abord sous l'angle de l'offre et sous l'angle de la demande. Sous l'angle de l'offre, ça veut dire qu'il faut d'abord effectivement créer des opportunités et les programmes d'aide au développement, peut-être dont on peut rediscuter de l'efficacité, en tout cas n'ont jamais ciblé cette population qui est sur les bateaux aujourd'hui, qui n'est pas la plus pauvre des plus pauvres. Ouais. Mais qui sont plutôt des gens de classe un peu, qui ont un peu d'éducation et qui ont quelques moyens pour payer les passeurs. Et donc, ils n'ont pas été la cible nécessairement des actions de développement et peut-être il faut s'interroger là-dessus. Mais il y a une question de demande aussi. L'emploi illégal d'étrangers doit aussi être combattu en Europe. Et la question qui était posée précédemment sur le dumping social, on fait directement partie. Je crois qu'il faut aussi renforcer les contrôles parce que s'il n'y a pas d'emploi pour les gens en situation irrégulière, il y aura aussi moins de demandes pour monter sur les bateaux à ce titre.
Merci à tous les trois pour toutes vos observations. On se rapportera aux travaux de l'OCDE, à ceux d'Elmo Mouhoud, bien sûr aussi, qu'on va retrouver sur notre site grâce au bon soin de Laurence Genepin. C'est l'heure à présent de notre chronique sociale. Bonjour Marie Bellan, Les
Bonjour.
Échos. Et on revient en France et on revient sur un terrain dont les Français adorent débattre.
La santé au travail et plus spécifiquement le compte pénibilité et la question de son coût. Alors vous le savez, la réforme de la pénibilité a été annoncée en 2012, votée en 2014, mais on n'est toujours pas sorti de la polémique entre ceux qui dénoncent son coût et sa complexité d'un côté, ça c'est plutôt les employeurs, et les syndicats qui justifient son adoption pour compenser les écarts d'espérance de vie qui existent, qui sont documentés, entre les salariés soumis à des emplois pénibles et les autres. Alors pour mémoire, je rappelle en quelques mots quand même ce qu'est le compte pénibilité. Il est réservé aux salariés du privé qui sont soumis à des facteurs de pénibilité dont les seuils et les durées d'exposition ont été établis par décret. Ça peut être le bruit, le port de charges lourdes, les risques chimiques. En fonction de cette exposition, le salarié reçoit un nombre de points qu'il peut ensuite utiliser soit pour se former, soit pour travailler à temps partiel, payé à temps plein, soit pour partir plutôt à la retraite, ce qui va être, je pense, l'essentiel des cas du choix qui va être fait par les salariés. Alors, ce sont ces départs en retraite anticipée qu'il va falloir financer via des cotisations patronales. Alors, selon les estimations de l'Institut CO-Rexecode, qui ont été publiées ce jeudi, et un institut, je le dis, qui est proche du patronat, parce qu'il faut quand même le rappeler, le coût de ces départs, et donc du compte pénibilité, devrait atteindre 600 millions d'euros en 2020. Et selon les calculs de l'Institut, un peu plus de 18% des salariés du privé seraient éligibles au compte pénibilité, ce qui fait environ 3,3 millions de personnes. Les fonctionnaires, je vous le rappelle, ne sont pas concernés par le dispositif. Donc avec la montée en charge du dispositif, en effet, de plus en plus de salariés vont être concernés avec l'entrée dans la vie active de nouveaux entrants sur le marché du travail, la facture pourrait tout de même grimper à 1,7 milliard en 2030 et 3,3 milliards en 2040. Alors même s'il est très délicat de savoir exactement combien de salariés seront concernés, alors notamment parce que les salariés n'occupent pas le même emploi toute leur vie, ils peuvent sortir de la pénibilité, y re-rentrer, ces chiffres sont quand même crédibles et peuvent être pris au sérieux. Alors pourquoi ? D'abord parce qu'ils recoupent ce qui avait été estimé par le gouvernement dans son étude d'impact au moment du vote de la loi, donc il y a une concordance un peu des chiffres, et parce qu'ils tiennent compte du turnover dont je vous parlais à l'instant. Alors l'étude en revanche ne tient pas compte d'un point important, le fait que le stock d'emplois pénibles devrait baisser à l'avenir. Alors, dans la mesure où les cotisations patronales sont assises sur le nombre de salariés dans l'entreprise qui est exposée à la pénibilité, il serait logique que les employeurs cherchent à faire baisser leurs cotisations en adaptant le poste de travail et en faisant ainsi sortir leurs employés de la pénibilité. Alors, il y a plein de moyens, en proposant des casques pour limiter le bruit, en mettant des chariots élévateurs pour limiter le poids des charges lourdes, en mettant des masques contre les poussières de bois. Il y a quantité de moyens de limiter quand même l'exposition aux facteurs de pénibilité. Donc, pour résumer, cette réforme, elle représente bel et bien une charge supplémentaire et non négligeable en termes de coût du travail, on ne peut pas le nier. Mais sa montée en charge sera progressive, on le voit avec les chiffres. Et il existe bel et bien des moyens d'en contenir le poids, notamment par la prévention et l'attention donnée aux conditions de travail.
pénibles conditions de travail de Marie Bellan bousculées par le temps, car il est l'heure de conclure. Merci.
Ça, c'est la pénibilité psychique qui est prise en cause,
mais ce qui
est un point essentiel.
À tous les quatre, Marie Bellan, donc Jean-Christophe Dumont, El Mouhmoud et Olivier Passerecle, on vient d'entendre. Merci aussi à notre équipe de réalisation, Olivier Bétard. Avec Jean-Frédérickson, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine. Et El Mouhmoud sera jeudi sur notre antenne à France Culture avec Thierry Garcin, très tôt le matin, pour parler des conséquences économiques et sociales des chutes de cours du pétrole qu'il connaît bien également.